Vous devinez le message d'aujourd'hui? Donc je crois que pour une fois, je n'ai pas besoin de vous apprendre, de vous donner le titre du message d'aujourd'hui. Donc il est autour de la naissance du Seigneur. Et que j'intitulerai un peu plus la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Mais il faut une mise au point. Je tiens à faire cette mise au point pour que nous soyons d'accord. Dans la Bible, il ne se trouve aucun mandat, aucune recommandation, aucun passage, aucune allusion pour observer un jour comme l'anniversaire du Sauveur. Soyons clairs là-dessus. À aucun moment, les apôtres, le Saint-Esprit Dieu, à travers les apôtres, nous ont instauré cette fête de Noël. Dire le contraire, c'est remettre en question la parole de Dieu. Par conséquent, son observance ne vient pas de l'autorité divine. Nous n'avons d'ailleurs, nous n'avons aucune preuve de l'authenticité de sa date de naissance. Le 24 décembre, le 25 décembre, il n'y a aucune authenticité, authentification historique, scientifique, religieuse pour dire que le Seigneur est né un 24 ou un 25 décembre. Soyons au clair là-dessus. Il faut savoir c'est que ce n'est qu'au milieu du troisième siècle, oui, on est plus de 200 ans après la résurrection du Seigneur et son montée vers le ciel, c'est au milieu du troisième siècle qu'une partie de l'Église a célébré la naissance de notre Seigneur. Mais ce n'est que longtemps après que l'Église occidentale, dirais-je, eût donné l'exemple de l'Église, donné l'exemple à l'Église orientale, a suivi l'exemple par la suite. Noël, ce n'est pas une fête religieuse instaurée par le Seigneur. Dans un numéro, Le Monde, la revue Le Monde des religions, du décembre 2019, et je vous conseille de l'acheter, vous aurez une explication par un conférencier, par un chercheur sur l'histoire de Noël. Le titre évocateur, je ne vais pas aller dans les détails, ce n'est pas le sujet de ce matin. Noël, comment une fête païenne est devenue chrétienne. Les racines païennes de Noël. Noël, il faut savoir, correspond à une. Enfin, c'était une époque, où, je vais résumer, où le politique voulait avoir la main sur la société. Et comme la foi chrétienne était tellement présente, donc on a mis la main sur la religion chrétienne, on a créé une religion d'État. D'ailleurs, qui fonctionne encore de nos jours. Le catholicisme. Et je n'ai pas, et je me dois de le dire devant vous, devant Dieu et devant moi, que l'Église catholique, en tant que pouvoir, en tant que système, est une instauration humaine, émanant d'un pouvoir politique, pour pouvoir avoir la main sur la population. Certes, vous allez dire, je résume mes propos. Mais Noël correspondait à l'époque à une fête païenne où le 25 décembre coïncidait avec le solstice d'hiver, le 21 décembre, la nuit la plus longue, où on dit que voilà, les ténèbres. Donc c'était cela. Mais comme la foi chrétienne était là, donc on a mélangé les deux. Et petit à petit, cette fête païenne a disparu pour laisser la place à cette fête religieuse. Et c'est en 354, que le pape Liber, c'est le nom du pape Liber, fixe définitivement que Jésus est né un 25 décembre. Donc soyons au clair, je me le dois devant Dieu, que la fête de Noël n'a aucun fondement chrétien, n'a aucun fondement biblique, parce que même les apôtres ne nous appellent pas à fêter la naissance du Seigneur. Mais par contre, nous sommes appelés à fêter la passion du Seigneur, la mort sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection et sa montée au ciel. Cela, nous sommes appelés à le fêter parce que c'est par cet acte-là que nous sommes réunis ce matin. Ceci dit, même ce que Dieu permet dans le monde, Dieu nous dit, utilisez-le pour me glorifier. Eh bien, nous nous réunissons, s'il faut fêter Noël, nous, nous pouvons dire que nous le fêtons tous les jours, Noël. Tous les jours, Noël, nous fêtons la naissance de Christ en nous. Donc, ramener Noël à une fois par an, c'est déjà réduire le message du Seigneur. Noël, aujourd'hui, la naissance de Jésus, est réduit au cadeau, au Père Noël. Tiens, au repas fastidieux. On n'imagine pas un Noël sans un repas où les publicités se préparent déjà par avance pour nous dire comment faire perdre du poids. C'est ça Noël? Le Seigneur nous appelle à penser aux pauvres, à penser à ceux qui sont dans le besoin, à partager même avec ceux que nous ne aimons pas. Mais ne passons notre soirée, nos repas à nos goinfrés. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais nous pouvons remercier le Seigneur de cette grâce qu'il nous accorde, sans oublier qu'il y en a qui n'ont pas le 1/10 de ce que nous partageons le soir au lendemain de Noël. Le message de Christ, c'est penser à ceux qui n'ont même pas le 1/100 de ce que nous avons. La naissance du Seigneur Jésus-Christ. La naissance. Mais en fait, la naissance de Jésus, c'est la naissance par excellence, c'est l'apogée de la naissance, c'est la naissance de l'humanité. C'est la naissance la plus célèbre de l'histoire de l'humanité. La naissance de Jésus dans la Bible, quand on prend la naissance comme nous l'avons lu tout à l'heure, n'a de sens que si cette naissance, le message de la naissance est pris en considération dans un tout. Ne sortons pas ce passage de la naissance comme c'était un événement de l'histoire. Non, il n'a de sens que si on prend la Bible, l'histoire en entier. La naissance de Jésus n'a de sens que si elle est prise en considération dans la globalité de la création. La naissance de Jésus est un message englobé dans un message divin global. La naissance de Jésus n'est remise en question, je dirais, presque par personne. Cette naissance est tellement célébrée qu'elle sert de base pour la datation actuelle. On dit bien, on est en 2019 après Jésus-Christ. On utilise tellement célèbre dans l'humanité que nous l'utilisons comme datation. Certes, il y a les pays musulmans, ils utilisent une autre datation après le Hégir, mais complétée par une datation, entre guillemets, chrétienne. C'est une naissance relatée et confirmée par d'autres écrits. Et si je parle de mes propres origines, par le Coran. Oui, la naissance miraculeuse, telle que les enfants l'ont lue tout à l'heure, est relatée aussi dans les écrits des musulmans. Et ce n'est pas le sujet de ce matin, je ne vais pas vous mettre à vous lire des sourates qui montrent quand même cette naissance miraculeuse. Depuis mon jeune âge, j'ai appris la conception, la naissance miraculeuse de Jésus. Que les musulmans appellent Isa al-Yasur, al-Masih. D'ailleurs, al-Masih, dans cette expression Masih, déjà, il y a Masaha, le verbe Masaha, qui veut dire nettoyer, laver. Déjà, en appelant Jésus, il est appelé à laver quelque chose. Mais quelque chose, ce n'est rien d'autre que nos propres péchés. Mais qui est ce Jésus auquel l'histoire attache une telle importance? Quel est le message qui se cache derrière l'histoire de la conception et la naissance miraculeuse de ce Jésus, de ce Yeshua? C'est ce que je vous invite ce matin à partager ensemble. Ne comptez pas sur moi, je me limite à la nativité de Jésus, parce que la nativité ne précède un autre élément encore plus important, c'est le don du Christ et sa résurrection. Et nous sommes déjà au ciel. Toute naissance, heureuse soit-elle, est une coupure, ou plutôt une mort à quelque chose qui précède. La naissance quotidienne du jour, la lumière, est le fruit de la dissipation progressive et lente de l'obscurité, la nuit. Est-ce qu'on peut parler du jour seulement en parlant de la lumière? On oublie la nuit. Non, ça fait les deux. La naissance d'un enfant est le fruit d'une expulsion et d'une coupure. La coupure, on coupe bien, j'ai bien coupé trois fois le cordon ombilical. À contre-cœur. J'étais pas bien. La joie de la naissance est précédée de la douleur de l'accouchement. Est-ce qu'on peut parler de naissance sans parler d'accouchement? Accouchement que je peux appeler expulsion. Expulsion, mettre hors d'eux. La mère accepte de se couper de son fils, de son état primaire, pour lui donner la vie. Si elle ne se coupe pas de son enfant dans le ventre, elle dit « Non, je le garde ben, !» il ne restera pas longtemps. Donc, le fait de se couper de son bébé du ventre, c'est un acte d'amour pour lui donner la vie. C'est en quelque sorte une mort à un ancien monde. La mère et l'enfant acceptent le fait de mourir à un ancien monde où ils étaient unis dans le ventre. Ils acceptent de se couper et l'enfant sort. Une mort à une situation qui précède la naissance. La vie est le fruit, en quelque sorte, d'une mort. Donc, parler que de la mort, oui, c'est mauvais. Parler que de la vie, ça n'a pas de sens. Les deux ensemble, ça a du sens. Et c'est le message de la croix, encore une fois. Parler que de la passion du Seigneur mort, oui. Parler de sa résurrection, oui. L'ensemble, c'est ça la bonne nouvelle. Ça va ensemble. La naissance n'a de sens parce qu'il y a séparation avec un monde antérieur. La création même est un accouchement, est une expulsion. Le premier verset de la Bible, nous lisons, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Créa en hébreu veut dire « bara ». Et ce n'est pas « aways » que je vais dire. Qu'est-ce que ça veut dire « bara » ?« Khruj bara ». Voilà. Mettre dehors. Expulser. Dans un acte d'amour, le Dieu, quand le monde était créé, le Dieu s'est séparé, c'est un acte d'amour. L'homme et la femme, ils étaient ensemble quand Dieu les a séparés, c'est un acte d'amour pour donner une existence à l'homme et la femme. Pour que la femme existe, pour que l'homme existe, il fallait opérer une séparation. Je peux prendre le déluge. La disparition d'un ancien monde, nouveau monde. Je peux parler du peuple hébreu. L'ancien monde, l'Égypte, l'esclavage, la terre promise, la naissance. Je peux parler aussi de nous-mêmes, le fait d'aimer l'autre. Même si cette personne ne m'aime pas, aimer son ennemi, c'est quelque part, je meurs à une partie de moi-même qui rejette cela. Naissance, je permets à l'autre de naître parce que je l'accepte en acceptant de faire mourir une partie de moi-même. C'est ça, aimer l'autre, aimer son ennemi. Même si ma nature me dit non, c'est pas bien ce que tu fais parce qu'il t'a fait ci ou ça, eh bien, t'acceptes de mourir à cette partie-là pour donner la vie à l'autre en lui pardonnant. Nous utilisons des fois cette expression après la délivrance d'une souffrance ou après la résolution d'un problème ou quand on passe un concours, je sais pas quoi. Ouf, je revis. C'est une naissance. C'est un principe inhérent à la création. Et même le raisonnement économique, ça ne m'empêche pas de revenir à mon domaine, est teinté de la dualité mort-naissance. C'est cyclique dans l'économie. Il y a une construction après une destruction. Il n'y a pas de croissance sans crise qui précède. C'est cyclique, c'est l'économie, c'est un constat. Cette dualité mort-naissance aux morts résurrection, accompagne l'humanité depuis les origines. C'est ce que j'appelle, personnellement, la capacité de métamorphose que nous avons. Nous avons cette capacité innée en nous. Chacun de nous, ici ce matin, nous avons cette capacité depuis que nous sommes nés. Dieu a mis cette capacité en nous. Nous naissons avec cette capacité de changement, de métamorphose. Cette capacité de transformation, je dirais même plus, ce que j'appelle métamorphose, ne doit pas se limiter à nos attributs humains, à nos bons sens, à nos capacités naturelles, où nous sommes au centre du jeu. Hein, atteindre un objectif, délivrance, libération, hein, je renais, quand je dis, je renais à ce monde. Sociabilisation, comme l'accueil, l'acceptation de l'autre. Oui, ce n'est pas parce que j'accepte tous les autres, je les aide. Tant que l'être humain qui est au centre du jeu, ce n'est pas de cette métamorphose qu'il s'agit. Souvent, nous réduisons cette capacité à une amélioration de nous-mêmes. Toutes ces naissances successives dans le monde ne sont que l'ombre d'une naissance d'une autre dimension, une autre naissance. La Bible nous parle d'une autre naissance, une naissance plus grande, plus extraordinaire, une naissance qui nous transporte vers une réalité qui nous dépasse, ou plutôt vers une réalité pour laquelle nous sommes créés. Ce n'est pas une naissance naturelle. La naissance de l'enfant expulsé par la maman, c'est une image visible d'une réalité qui nous dépasse. Ce n'est pas une naissance naturelle qui disparaît avec le temps. Ce n'est pas une naissance qui disparaît avec nous dans la tombe. Nous finirons tous un jour, sauf si le Seigneur revient entre-temps. C'est une naissance éternelle. C'est une naissance spirituelle à laquelle nous sommes appelés de naître. C'est ce que la Bible appelle tout simplement la nouvelle naissance. Et le modèle par excellence de cette naissance, c'est bien celui qui est né de l'Esprit divin. C'est celui qui a quitté son éternité pour venir au milieu de nous, prendre notre nature humaine. C'est bien Jésus-Christ. Le modèle par excellence est Dieu lui-même qui naît au milieu de nous. C'est ce Dieu qui est né en et à travers son Fils Jésus-Christ. Le modèle par excellence est celui qui s'est coupé de son éternité pour habiter au milieu de nous tout en contenant l'éternité en lui. C'est celui qui a pris notre chair qui est rendue semblable à nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le premier-né parmi la création, tel que c'est voulu par notre Créateur. Colossiens, chapitre 1, verset 15, nous lisons, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. S'il y a une naissance naturelle, l'Adam, le premier Adam, Adam, l'Adam, l'être humain, il y a aussi une naissance spirituelle dans une nature humaine. C'est Jésus-Christ. Christ est le devenir de l'Adam. Christ est notre devenir. L'Adam, l'être humain, si vous voulez, est créé pour cheminer vers Christ. Cette réalité est notre réalité. Dieu nous a créés pour Christ, c'est-à-dire devenir l'image de Dieu. C'est pour cela que nous sommes différents des animaux, et j'espère que vous l'avez bien compris. C'est pour cela que nous sommes créés. Dans Genèse, chapitre 1, verset 27, ce message est déjà lancé dès le livre de la Genèse. Voilà, je lis dans Genèse 1, verset 27, « Dieu créa l'homme à son image ». Voilà le message est donné déjà. Il a dit, voilà pourquoi j'ai créé l'homme. Dans le sens homme et femme, c'est H majuscule. Il créa à l'image de Dieu. Ceux qui n'ont pas compris que homme, H, c'est homme et femme, c'est précisé après. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes appelés à une nouvelle naissance. Nous sommes appelés à une naissance de Christ en chacun de nous. Le sens de la naissance de Jésus. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous fêtons la naissance de Jésus-Christ en nous, par et dans l'Esprit. C'est notre réalité cachée en Christ. Comme le dit un de ses disciples, l'apôtre Paul, dans Colossiens chapitre 3, versets 2 à 4, je lis, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur terre. Car vous êtes morts, et votre vie est caché avec Christ en Dieu. » Voilà notre réalité. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voilà ce qui nous attend. C'est notre réalité. C'est notre devenir, Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement l'être historique qu'il faut étudier, critiquer, je ne veux pas, mais c'est au-delà. La réalité n'est pas cet être qui est venu, qui a vécu 33 ans sur terre. C'est plus que ça. Il est éternel, aussi Dieu éternel. Mais pour nous donner un modèle, pour nous dire, voilà comment je veux que vous soyez, il est venu parmi nous. Mais non seulement être un modèle, mais s'est sacrifié à notre place aussi. C'est notre réalité, c'est notre devenir. C'est ce que la Bible appelle le royaume de Dieu. Voilà, on y est, le royaume de Dieu. C'est accueillir cette réalité Christ en nous, le royaume de Dieu. Souvent, on cherche à expliquer qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Mais c'est Christ, le royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Cette nouvelle naissance nous fait entrer dans une communion avec Dieu, le créateur de l'univers. Rater cet objectif, parce que même en étant chrétien, on peut rater l'objectif. Ce n'est pas parce que écrit chrétien, on peut rater l'objectif. Rater cet objectif, c'est vivre dans un mensonge que le monde essaie de nous faire croire, de faire gober. Atteindre cette réalité disponible de toute éternité, c'est intégrer et commencer à vivre sa réelle liberté. Et c'était le sujet de la conférence GBU. Sommes-nous libres ou pas en dehors de Christ? Mais comment, vous allez me dire, comment naître de nouveau? La question, comment naître de nouveau? Si je suis convaincu, d'accord, je suis appelé à naître de nouveau, je suis appelé à accueillir Christ, c'est-à-dire rencontrer ma réalité ici-bas sur terre, ne pas attendre après la mort. Comment faire alors? Comment naître de nouveau? Ça paraît philosophique tout ça. Ça paraît aberrant. Qu'est-ce que vous nous racontez là? Vous avez fait un bac je ne sais pas combien, vous êtes en train de nous gonfler avec ces paroles-là qui dépassent ma... J'arrive pas à comprendre. Mais ce que je suis en train de dire là, la question s'est déjà posée dans la Bible. Cette question est déjà posée par un religieux à Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, je vais vous lire les versets 1 à 8. Écoutez. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Vous vous rappelez de cette histoire, Nicodème? Un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, ça veut dire maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme, écoutez bien, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, comme nous, comme moi ce matin, il lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» C'est quoi cette histoire? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Oui, philosophique. Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. » L'être humain, ça c'est humain. Mais est-ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. C'est l'esprit. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. En résumé, il est en train de lui dire, ta question, elle est légitime. Mais c'est une question humaine, d'après ton intellect, ce qui est né de la terre est terre. Mais si tu veux connaître Dieu, Dieu est esprit, il faut être dans l'esprit. Et l'esprit, c'est qui? C'est Christ, c'est la nouvelle naissance. On ne peut connaître Christ que si on a expérimenté cette nouvelle naissance. Sinon, on restera dans les discussions philosophiques. Alors à la question, comment naître de nouveau? Moi, je dirais, il faut poser la question autrement. Pourrais-je naître de nouveau moi-même? Vous devinez la réponse. Bien entendu, non. Je ne peux pas naître de nouveau moi-même. Mais ma responsabilité réside dans mon désir de naître de nouveau. C'est tout ce que nous demande le Seigneur. Vous ne pouvez pas le faire, mais vous le voulez. La question doit être, est-ce que je veux naître de nouveau? Voilà la question qu'il faut se poser. Si la réponse est oui, alors le Seigneur répond tout simplement, entre guillemets, crois seulement. Crois seulement. C'est comme l'exemple de ce chef de la synagogue dont la fille était morte. Je voulais le passage, comme ça c'est encore mieux. Chez le chef de la synagogue, quelqu'un disant, Ta fille est morte. Et il venait voir le Seigneur pour lui dire comment il ressuscitait, qu'il faisait des miracles. Il venait voir le Seigneur pour qu'il ressuscite sa fille. Alors ceux qui protégeaient le Seigneur, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, je sais que ta fille est morte. Crois seulement, elle sera sauvée. Et quand il est rentré chez lui, elle était sauvée. Crois seulement. Crois seulement que tu es créé pour rencontrer ton Dieu ici-bas, avant de vivre dans l'éternité plus tard. Crois seulement que tu peux naître de nouveau grâce à celui qui t'a précédé et qui est le premier-né de la création, Jésus-Christ. Crois seulement que tu ne connais pas Dieu, que tu es l'opposé de ce qu'il est, croyant seulement que nous sommes le contraire de ce qu'est Dieu. Dieu est droit et pur, je ne le suis pas. C'est une conviction intérieure qui doit nous amener à la repentance, à la reconnaissance et à la confession de ses limites. C'est ce que nous demande le Seigneur. Croire tout simplement que nous sommes tout ce que Dieu n'est pas. J'ai résumé. Croire simplement que nous sommes dans le péché. Si nous croyons que nous sommes parfaits, alors je crois que la discussion s'arrête là. Croire seulement que malgré nos prières religieuses, malgré nos actes de bienfaisance, nous ne rachèterons jamais la totalité de nos erreurs, de nos fautes envers notre Créateur, envers nos semblables et envers nous-mêmes. Pour la simple raison que notre nature est aliénée d'origine. Notre nature est substantiellement mauvaise, même si nous pouvons définir le bon et le mauvais côté de notre nature. Croire cela, c'est accepter que Dieu nous prépare à une nouvelle naissance. Ça paraît simple, mais notre nature la complique, parce qu'elle ne veut pas lâcher prise. La naissance de Christ en nous, voilà le désir de Dieu. Une nouvelle nature qui ne va pas nous anéantir, mais qui va nous restaurer. C'est l'exemple du grain de blé. Hein? Pour qu'il donne des épis nourrir, il faut qu'il rentre dans la terre, ce grain de blé. Il faut l'enterrer, il faut le semer. C'est en préparant cette nouvelle naissance que le Seigneur Jésus se révélera pour nous dire, pour vous dire, pour me dire, pour te dire, tu n'as pas besoin de te forcer pour me plaire. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de te lamenter, de te culpabiliser. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de te sacrifier sans cesse ou de sacrifier des animaux pour te racheter. Ça ne sert à rien. Tu n'as pas besoin de tout cela. Car le meilleur sacrifice qui plaît à Dieu est son propre sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice de son propre fils. Dans Philippiens chapitre 2, je vous lis les versets 2 à 8. Je lirai juste les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Cette obéissance au Père, ce sacrifice nous ouvre le chemin du salut, le chemin de la liberté, le chemin de l'éternité. Dieu, en s'humiliant en son bien-aimé Fils Jésus-Christ jusqu'à la mort, nous montre son amour pour nous et nous offre son pardon pour toutes nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Il nous donne la possibilité de nous prendre en main, de nous redresser et surtout de donner un vrai sens à notre vie. Nous saurons pourquoi nous sommes sur terre. Il nous offre une nouvelle nature, une nouvelle vie rendue possible par la résurrection de son Fils Jésus-Christ. Crois seulement et Dieu fait le reste. Crois seulement et cette nouvelle naissance devient concrète dans ta vie. Crois seulement et Dieu te fait entrer dans une communion progressive avec lui. Crois seulement et Christ habitant en toi par l'Esprit te fera cheminer à travers plusieurs épreuves, plusieurs métamorphoses, jusqu'à la dernière métamorphose quand tu auras quitté ce corps, quand nous aurons quitté ce corps. C'est la métamorphose éternelle. Ça sera la dernière libération pour l'éternité. Je termine. La nouvelle naissance, ce que nous fêtons, paraît aujourd'hui, que nous fêtons tous les jours. La nouvelle naissance est une naissance dans l'esprit, ou plutôt de l'esprit en nous, pour intégrer la famille de Dieu. Que la Bible compare, enfin, pas compare, mais représente le corps de Christ. Une église, les chrétiens qui se rassemblent, les chrétiens d'hier et d'aujourd'hui et de demain, une église née à la Pentecôte après l'ascension de Jésus-Christ. Et je vous passe, vous connaissez l'histoire de la naissance de la première église à travers l'Esprit quand il est descendu du ciel. C'est cette naissance que nous fêtons aujourd'hui, comme c'est le cas de tous les jours. C'est cette nouvelle naissance symbolisée par le baptême. Et là, je m'adresse à Abel. Voilà le sens du baptême, on a eu une discussion là-dessus. Le baptême est une proclamation de cette nouvelle naissance. Et quand tu le feras, je l'espère, les anges chanteront dans le ciel, parce que c'est la nouvelle naissance. Voilà le sens du baptême. C'est une nouvelle naissance symbolisée aussi par la Sainte Cène, que nous allons prendre tout à l'heure. C'est un symbole, cette réalité-là. Que Dieu révèle cette réalité, que Dieu révèle cette réalité, cette bonne nouvelle dans, le cœur, dans nos cœurs, dans notre cœur. Que Dieu suscite le désir, l'envie de le laisser nous parler. Qu'il nous humilie et qu'il nous convainc de ce qu'il désire pour chacun de nous, dans l'amour et dans la paix, toujours dans l'amour et dans la paix. Qu'il nous aide à accepter cette naissance divine, que je ne peux pas la faire moi-même, mais Dieu seul peut la faire, et il l'a déjà fait. Cette nouvelle naissance, et qu'elle soit le catalyseur, allez, je vais dire le démarreur, le booster, si vous voulez, d'une métamorphose progressive et salvatrice qui s'achèvera dans l'éternité. Voilà une des facettes de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Que cette naissance trouve un accueil en nous, que le Christ Jésus naisse en vous, en toi. C'est ce que la Bible appelle tout simplement la bonne nouvelle, c'est la nouvelle naissance. Je demande à Dorothée de prier.
Merci Seigneur pour cette possibilité de naître de nouveau. C'est un miracle à nos yeux. C'est incroyable pour nous de pouvoir réfléchir là-dessus. Ça nous semble impossible, mais rien n'est impossible à tes yeux. Et c'est toi le Créateur. Et si toi tu as dit que c'est possible de naître de nouveau, nous voulons le croire aussi et nous l'avons déjà expérimenté. Merci Seigneur pour cette nouvelle voie, pour cette nouvelle naissance que tu nous as donnée en cadeau. C'est le meilleur cadeau que tu puisses nous donner. Merci Seigneur. Amen.
Amen. Amen. Veuillez m'excuser pour ce dépassement.